Avignon.
Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Il est exactement 7h30. Excellent réveil avec nous sur Radio Classique. Tout de suite, le journal avec Augustin Lefebvre. Et ce journal commence, Augustin, par le Premier ministre Jean Castex, qui était en opération déminage hier soir sur France 2. Monsieur Castex a tenté de rassurer après les nouvelles mesures sanitaires présentées mercredi.
Il a notamment annoncé des indemnisations pour les commerçants qui seront affectés, car dès demain, les bars et les restaurants devront fermer dans la métropole d'Aix-Marseille et dans 11 métropoles dont Paris, Lyon ou Nice. Il faudra mettre les clients dehors à 22h à partir de lundi. De quoi susciter l'inquiétude des professionnels de la restauration et de l'ensemble de la filière dans toute la France. Ils veulent à tout prix éviter de revivre un confinement, Émilie Vialès.
Soucieux et fataliste, voilà mon état d'esprit, glisse Thierry Fréchon. Ce restaurateur installé dans le golfe de Saint-Tropez ne se fait pas d'illusions. Après ses voisins marseillais, ce sera bientôt à son tour de devoir fermer.
On a peur que ça aille plus loin. Je devais prendre du personnel, je ne prends plus. J'ai un jeune qui doit rester encore 10 jours jusqu'à la fin septembre. Je ne sais pas si je renouvelle le contrat et je fais moins de commandes de légumes, de viande, de poissons, parce que je ne sais pas où on va.
Fabienne Munoz, coiffeuse en Ardèche et représentante de sa profession, est aussi très inquiète.
Avec toutes les mesures sanitaires qui sont annoncées pour les mariages ou des festivités, il y a beaucoup moins de fréquence dans les salons. L'avenir fait peur. Arrivent les fêtes. On voudrait vraiment pas qu'il y ait une fermeture à nouveau parce que ça serait catastrophique pour notre secteur.
Comment voulez-vous que l'économie reparte avec un climat aussi anxiogène ? Se désole de son côté Valérie Langlais, présidente du syndicat des bouchers parisiens.
Les consommateurs sont très préoccupés. Ils sont dans la crainte du lendemain. Ils ne restent plus aussi longtemps dans les commerces et ils achètent au jour le jour. On vend davantage de volailles, de produits peu chers comme le jambon, comme le steak haché. On n'est plus dans les achats plaisir comme lors du confinement.
Je ne peux pas leur en vouloir. Beaucoup de clients ont peur de se retrouver au chômage, conclut cette commerçante.
Émilie Vallès.
Et Olivier Véran se retrouve sur le ring, comme on dit, le ministre de la Santé se rend à Marseille. Cet après-midi, Marseille, où les nouvelles mesures sanitaires très contraignantes que vous évoquiez à l'instant ne passent absolument pas.
Les représentants de l'économie de la ville se rassemble à 9h devant le tribunal de commerce. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, va lui déposer un recours en référé devant le tribunal administratif. Hier soir, sur France 2, le Premier ministre l'a dit, il assume de prendre des mesures impopulaires pour faire face au regain de l'épidémie. Et sur un autre de ces sujets, l'une de ces mesures ne sera pas populaire auprès des amateurs de tennis. 1 000 000 de spectateurs seulement à Roland-Garros. Nouvel abaissement de la jauge, pas de dérogation pour le tournoi parisien qui commence dimanche.
Tous les indicateurs augmentent. Près de 16 100 cas supplémentaires dans la seule journée d'hier. C'est un nouveau record.
Et dans les zones d'alerte renforcée, on se prépare à passer prochainement à l'échelon du dessus. L'alerte maximale écarlate. À Paris, la PHP a donc élaboré des scénarios de déprogrammation de certaines opérations. Celles qui peuvent attendre, les petites hernies ou la pose de prothèses par exemple. Comme les commerçants à l'instant, les soignants veulent éviter de revivre la situation du printemps où l'on ne traitait plus que des patients du coronavirus. Pour le professeur Gilles Pialou de l'hôpital Tonon, c'est donc un casse-tête supplémentaire.
À la PHP, il y a un plan de déprogrammation progressif.
On pourrait arriver mi-octobre ou fin octobre à une rentrée quotidienne de malades en réanimation qui est celle qu'on voyait à la pire semaine de la première vague, c'est-à-dire la semaine du 30 mars. Il y a un certain nombre de chirurgies qui sont programmées, digestives, sur les calculs biliaires et des choses comme ça qui peuvent éventuellement au cas par cas, mais ça va être très compliqué. En rhumatologie, il y a à peu près 400 dossiers en souffrance qui n'ont pas été pris en charge sur le plan thérapeutique et diagnostique à cause de la première vague de Covid. Et l'objectif vraiment, c'est de faire coexister la prise en charge des patients atteints par le Covid avec ceux qui ont besoin de soins non-Covid.
Les propos recueillis par Rémi Pfister.
Le journal sur Radio Classique.
En dehors de la crise sanitaire, Augustin Lefebvre, le Premier ministre a aussi annoncé une hausse du budget de la justice hier soir.
8% d'augmentation l'année prochaine, du jamais vu depuis 35 ans, a-t-il déclaré. Il a promis l'embauche immédiate de 900 personnes pour que la justice soit plus rapide et plus efficace.
Retour à Rouen également pour terminer ce journal. Un an, jour pour jour, après l'incendie de l'usine Lubrizol.
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, l'usine d'additifs pour lubrifiants et des entrepôts mitoyens ont pris feu. 9000 tonnes de produits chimiques partent en fumée, un panache noir au-dessus de la ville. Pendant de longues semaines, l'odeur est difficilement supportable pour les Rouennais. Certains souffrent de maux de tête et de vomissements. Un an après, on ne connaît toujours pas les causes de cet incendie. Et on ne connaît pas non plus ses conséquences sur la santé. C'est ce qu'estiment ces Rouennais chez qui Victoire Fort s'est rendue.
À quelques mètres de Lubrizol, des petites maisons de briques rouges.
Damien, tes chaussures !
C'est là que Laetitia vit avec sa famille. Elle se rappelle des hautes flammes dans le ciel et puis des yeux qui piquent, de l'odeur chimique.
Ben, on se dit, ils vont faire le nécessaire, normalement. On va être informé, normalement. On va peut-être être demandé d'aller voir, faire une prise de sang, faire quelque chose. Mais on n'a rien eu.
Alors depuis ?
Tout est organisé de façon que le sac soit à portée de main pour partir.
Et au moindre bruit.
Mes enfants comme moi, on regarde, on jette un coup d'œil pour savoir s'il n'y a pas quelque chose ou pas.
Les fumées partent vers le nord, là où Karim, asthmatique, réside.
L'impression d'avoir la tête dans un réservoir d'essence.
Il a consulté un médecin et a porté plainte.
Il n'y a pas eu assez de recherches pour savoir si vraiment c'était nocif pour notre santé ou pas. Si jamais il y a des répercussions sur ma santé, j'espère qu'ils seront là pour dédommager, tout simplement.
Martine Fleury, de l'association Rouen Respire, regrette qu'aucune cellule scientifique n'ait été mise en place.
Il y a eu des prélèvements dans les milieux, l'air, l'eau, les sols, mais il n'y a pas eu de prélèvements biologiques. Et cette interprétation d'état des milieux est laissée à la discrétion du pollueur. Donc, scientifiquement, c'est pas acceptable.
Une absence de transparence alors que la métropole compte une vingtaine de sites Céveso.
Un reportage à Rouen de Victoire Fort. Hier, le gouvernement a annoncé que le nombre d'inspections de sites Céveso allait être augmenté de 50% d'ici 2022. Le gouvernement qui a aussi présenté un système d'alerte sur les téléphones mobiles qui doit être prochainement lancé.
Merci beaucoup Augustin Lefebvre, présenter le journal de 7h30. Il est 7h37 et qui vois-je entrer d'un pas décidé en studio ? Eh bien les deux spécialistes du jour, Pavlenko et Faux. Ils parlent dans deux minutes.